Andrea Novikov, 12 oiseaux de jeunesse, Sweet Birds, Bird of Youth, de Tennessee Williams. Quand on découvre la pièce, on a l'impression de trois mouvements, de trois moments, comme dans une tragédie, il y a la règle des trois unités. Qu'est-ce qui vous a attiré, en fait, dans cette rencontre entre un jeune homme qui, comme le Val de la descente d'Orphée, retourne dans le lieu qu'il a vu naître et qui accompagne une actrice des Cathy. Est-ce que c'est à la fois du drame psychologique, du drame social, de la tragédie?
Je dirais plutôt la tragédie. Le Tennessee Williams naturaliste m'intéresse très peu. Je crois que dans l'écriture même de Tennessee Williams, il y a du théâtre psychologique, du naturalisme, mais il y a aussi énormément de tragédie, même du mélodrame, je dirais. L'époque qui a fait connaître Tennessee Williams, c'était l'époque du naturalisme, de l'Actu Studio, etc., etc. Donc il y a eu certaines tendances à le ramener vers le naturalisme. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant à faire ressurgir la partie la plus noire, la plus immense, la plus passionnelle, la plus enflammée de Tennessee Williams. Ça m'intéresse, ça. Dans cette descente aux enfers des deux personnages, il y a aussi une énorme réflexion autour de l'acte de la fiction. Elle est une star, lui aimerait l'être. Donc il y a deux artistes de la fiction, donc des comédiens qui rêvent, ne rêvent que de ça et qui ont donné leur vie à cet acte. Évidemment, monter ça au théâtre, ça implique tout de suite avoir un métadiscours autour du qu'est-ce que c'est la fiction, quelle est cette nécessité, pourquoi on le fait. En plus de ça, dans cette version que nous on va monter, on va traiter quel est le rapport entre la fiction théâtrale et la fiction cinématographique. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'elle se situe? Les deux langages vont cohabiter sur le plateau. Donc il y a un métadiscours sur la fiction et sur la fiction théâtrale, sur la fiction cinématographique. Et à l'intérieur de tout ça, ces deux personnages sont aveugles face au monde. Dans le troisième mouvement, dans la troisième partie, le monde autour est en train de brûler. Il y a un incendie. Au fond, il y a aussi un discours autour de nous, artistes, quelle est cette capacité d'aveuglement qu'on a face à ce qui se passe ailleurs.
Alors, aveuglement dans un certain sens, mais encore très grande lucidité par rapport à eux-mêmes et les propres fictions qu'ils se créent, hein, comme des storytellers qu'ils sont, c'est-à-dire notamment le fait que Chance dit « personne n'accepte de vieillir » et que Princesse, elle, reconnaît qu'elle s'est créée aussi sa propre fiction. Donc il y a quand même une assez grande lucidité à certains moments donnés sur ce qu'ils font.
Oui, c'est ça qui rend tragique, c'est la conscience des personnages qui vont vers l'autre, vers leur chute, mais ils peuvent pas l'empêcher, ou parce que le monde les amène dans cette direction, ou parce qu'eux-mêmes s'amènent vers leur propre destin, vers leur propre fin. Il y avait un dieu inéluctable et définitif qui invite les êtres humains à essayer d'avoir un moment d'éternité dans la vie. À ce niveau-là, je dirais que ça ressemble beaucoup à toute notre époque des Star Academy. Le personnage, le jeune Chance, qui veut être star, ça ressemble tellement à cette époque où on vit seulement si on va apparaître à l'écran. On existera seulement si on apparaît à l'écran. Ça, si on veut, c'est le côté d'actualité que j'ai trouvé dans cette pièce, à la lecture.
Donc Boss Finlay, qui est cet homme d'affaires qui tient sous sa coupe cette ville côtière du Sud, comment est-ce que vous l'avez envisagé, ce personnage?
J'aimerais éviter trop de connotations sur le sud des États-Unis. Quelque part, son discours raciste, religieux, la défense de la race, etc., ça nous parle aujourd'hui. On envisage même de rajouter à son discours des autres discours qu'on entend aujourd'hui en Europe. Donc on a évité un excès de connotations. Au sud des États-Unis. C'est vraiment tout discours raciste qui, malheureusement, ressurgit partout. Donc.
Sur la question des mutilations, de la castration qui revient très souvent dans la pièce, qu'est-ce que vous en avez retenu, en fait?
C'est pour ça que le côté tragique de la pièce est très fort quelque part. On parle de sacrifice, ça se passe le dimanche de Pâques, et on parle de castration, de impossibilité d'avoir des enfants, de tuer la vie, la vieille, le temps qui passe, la vieillesse, la mort. Donc il y a une série d'éléments qui sont absolument ou tragiques ou mélodramatiques. Donc on va essayer d'en garder le maximum. Alors après c'est une question de mise en scène, il faut voir jusqu'où on arrive.
Qu'est-ce qu'on fait justement avec l'artifice entre guillemets, ou les effets mélodramatiques qui sont dans toute l'œuvre de Tennessee Williams.
Mais je crois qu'on essaiera avec le jeu de les amplifier à la place de les retenir, à la place de les cacher, on essaie de les marquer encore plus. Oui, je crois que j'aime beaucoup réfléchir à l'instrument en l'utilisant. Je crois aussi qu'à la limite, ça pourrait être une forme de distanciation brechtienne, revue et corrigée par le temps. C'est quelque part la possibilité que le spectateur soit toujours conscient de l'artifice et en apprécier les moments de l'illusion, mais se rappeler tout le temps que c'est un artifice. À l'intérieur de ça, je crois que l'acte théâtral est ça. Et une conscience continue de l'artifice et le plaisir extraordinaire de découvrir qu'à l'intérieur de l'artifice on peut croire à quelque chose qui n'existe pas. J'aime pas le naturalisme, donc la lutte avec Tennessee Williams, ça va être lutter contre le naturalisme. Donc l'utilisation de projections à ce spectacle, à part que c'est une pièce de déjà à l'époque, Elia Kazan les avait introduits, donc c'est une pièce qui appelle ça naturellement, on parle de stars de cinéma, donc évidemment l'écran est là. Nous, on a juste en rajouté beaucoup plus. Il y aura des transitions constantes entre le moment théâtral entendu comme juste un comédien face à des spectateurs, sans même pas le décor derrière, à une partie du décor qui est seulement en partie dans l'espace. Il couvre pas tout l'espace. C'est presque, on pourrait dire, un entrepôt de décor naturaliste mis à jardin et donc on va l'utiliser quand on en a besoin ou quand on ne peut pas s'en empêcher, mais avec des retours à un côté très épique, à proscenium, adresse au public, un passage par le naturalisme et un passage par le cinéma. Donc on va transiter pour terminer vers le mélodrame, si on y arrive. Donc on se met en tour dans pas mal de styles des siècles qui viennent de s'achever.
Vous avez évoqué le personnage d'Elia Kazan qui, je crois, avait réalisé la première mise en scène de la pièce en 59 à Broadway. 3 ans plus tard, c'est le film qui sort avec Paul Newman. Ce film évacue notamment la question de l'acte que cherche à justifier à plusieurs reprises, cet acte de castration d'un noir que cherche à justifier à plusieurs reprises Bob Finlay. Qu'est-ce que vous avez eu comme regard par rapport au film qui a été parfois assez sévèrement accueilli par la critique française en disant que c'était une succession de passages obligés pour des acteurs, mais tout de même, on sent que déjà dans les costumes, ou peut-être dans le personnage de Chance ici, il y a quelque chose de Paul Newman qui revient quand même.
Oui, il peut y avoir un clin d'œil. Bon, Frank Semley, c'est un bon comédien qui allait bien pour le rôle. Ça, c'est le point de départ après que parfois on puisse. Mais on joue avec la citation, on ne peut pas nier le cinéma, donc je trouve. Une pièce comme ça, et même Tennessee Williams, on ne peut pas éviter de dialoguer avec le cinéma mythique américain. Donc, que le comédien principal puisse parfois peut-être appeler à quelqu'un Paul Newman, c'est un jeu, à la limite c'est un jeu. Après, évidemment, ce qu'il va faire, ça va être des différents. Mais oui, il y a plein de jeux de citations à l'intérieur. Il y a des moments où on se retrouve sur Boulevard de Crépuscule. On passe en revue pas mal de cinéma américain, mais pas forcément celui de Elia Kazan. Aussi, mais pas forcément.
Est-ce qu'il y a par exemple des influences, je dirais pour un cinéaste qui compte beaucoup pour vous, David Lynch, et notamment d'Inland Empire, dont le thème est assez proche par certains côtés de ce qui est abordé ici par Tennessee Williams?
Je ne sais pas encore. Je suppose que je peux pas m'en empêcher. Je dirais que dans le deuxième mouvement de la pièce, ou deuxième acte, nous on l'appelle mouvement juste parce qu'on se retrouve dans un type de travail qui dialogue avec le cinéma, donc on a préféré l'appeler deuxième mouvement. Le personnage de Chance sortait dans la pièce, disons la pièce classique, sortait de la chambre et descendait dans le bar et rencontrait son enfance, disons le passé de sa ville. Nous, on a décidé qu'au fond, étant donné que les deux personnages principaux prennent des substances tout le temps, des pilules et de l'alcool, qu'au fond, la sortie ne se fait même pas. Et c'est une projection de leur fantasme de la rencontre avec leur passé. Je crois que c'est vraiment un huis clos. Ils sont enfermés dans la chambre, ils veulent pas s'en sortir. L'extérieur est trop terrible, mais l'extérieur rentre dans la chambre à travers les substances qu'ils prennent. Donc le deuxième mouvement devient une espèce de cauchemar dont on n'est pas sûr que vraiment le personnage est sorti de la chambre. Et peut-être il est sorti seulement d'une façon mentale. Donc là-dedans, évidemment, quand on parle de cauchemars cinématographiques et cinéma, David Lynch et Revient à la surface.
Alors, vous avez parlé de trois mouvements, la chambre, la ville, l'incendie. Est-ce qu'on peut juste voir un petit peu ce parcours, justement, au travers de ces trois mouvements? Parce qu'en même temps, vous parliez de la tragédie, mais il y a aussi un aspect musical, en tout cas si on lit les didascalies, qui est assez important, notamment une lamentation, une complainte qui revient comme ça, comme un leitmotiv dans la pièce.
Oui, ben, je dirais que si on est dans la tragédie, quelque part, la musicalité est presque obligatoire. C'est le naturalisme, le psychologisme qui évite la musicalité ou qui essaie de s'enfuir, s'ils y arrivent. Toutes des rythmes cassés, le rythme apparent de l'apparente réalité. Une fois qu'on veut rentrer dans le mélodrame ou dans la tragédie, forcément rythmique et un tempo, un mouvement devient obligatoire. Et c'est aussi pour éviter tout psychologisme autour de la pièce. J'essaie de tenir compte un petit peu de la musicalité.